Conversation de philosophie par le père Marie-Dominique Philippe, le 6 juillet 1992 à Saint-Jodard. Thème, la vérité.
J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué le soir de la première journée, parce que ça fait un petit changement avec l'ordinaire. Alors, le soir, je compte avec vous. Regardez la vérité telle que Saint Jean. Dans son évangile, dans sa première épître et dans l'Apocalypse, nous en parle. C'est-à-dire, essayez avec vous d'entrer dans cette troisième dimension de sagesse. La sagesse mystique, celle qui vient du don de sagesse. Alors ici, vous être attentif à bien comprendre. Nous avons tous, par la grâce, reçu les sept dons du Saint-Esprit. Et le don domine tous les autres, c'est le don de sagesse qui vient perfectionner, c'est-à-dire qui vient diviniser l'exercice même de la charité en nous, de l'agapé, de la charité qui nous unit à Jésus, qui nous fait enfants de Dieu. La grâce ne supprime pas la nature, je vous l'ai déjà dit. Et c'est très important de se le rappeler tout le temps, cela. Puisque notre âme a été créée par Dieu, et que c'est le même Dieu qui nous rachète et qui nous communique la grâce. Cette grâce ne détruit pas l'œuvre du Créateur, mais elle permet à notre nature humaine d'atteindre d'une manière toute gratuite ce pourquoi elle est faite, sa finalité dans ce qu'elle a de plus profond. Nous sommes faits pour voir Dieu. Tout en nous appelle cela. Et les refoulements les plus terribles, c'est les refoulements par rapport à ce qu'il y a de plus radical en nous. Ce qu'il y a de plus radical en nous, c'est justement cet appel vers Dieu de l'enfant qui est dans le désert et qui cherche et qui désire trouver le visage de son Père. Tant que nous n'avons pas découvert le visage de notre Père, nous sommes un peu comme des orphelins. Et nous errons. Et nous avons des sensibilités un peu exacerbées. Nous avons un cœur qui est blessé. Il faut découvrir progressivement, sous l'action de la grâce du Christ, sous l'action de l'Esprit Saint, découvrir cette parenté foncière entre notre âme sauvée par Jésus et la source cachée qui est le cœur de notre Dieu, le cœur de Jésus, le cœur du Père. Thank you. créature, la charité divine qui nous est donnée, peut très bien s'exercer d'une manière toute prudentielle, c'est-à-dire d'une manière toute humaine. Beaucoup de chrétiens vivent à ce niveau, un peu de la pratique, vous voyez. C'est pas la vraie vie chrétienne. Jésus n'est pas venu pour nous redonner une nouvelle loi. Et saint Augustin disait déjà cela. Il disait que des quantités de chrétiens vivaient comme s'ils étaient encore sous l'Ancien Testament. C'est-à-dire, ils vivaient une pratique chrétienne dans l'ordre du devoir. On doit faire cela. On doit aller à la messe le dimanche. Vous voyez la pratique. On doit le donner du culte. On doit donner un peu d'aumône par le carême. Comme ça, ça nous permet de pas jeûner. On doit, vous voyez, toute une série de choses comme ça qui n'est pas du tout le point de vue proprement chrétien, qui est accommoder la vie chrétienne à notre prudence humaine. Le XVIIe siècle a fait ça très fort. Ça que je m'amusais toujours lorsque je voyais à Auxerre cette magnifique église, la crypte. Eh bien, un sacristain très intelligent qui est là. Pendant l'hiver, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. Alors, il gratte pour retrouver à l'hôtel. Il faisait ça il y a quelques années. Maintenant, j'espère qu'il a fini. Il grattait les vernis successifs qu'on avait mis, qui cachaient une pierre magnifique. Puis alors, je l'écoutais comme ça. Je lui ai demandé un tout petit peu s'il arrivait à distinguer les différents vernis. Il me dit, oui, il y en a un qui est extrêmement difficile à enlever. Je dis, tiens, lequel? C'est celui du XVIIe siècle. Alors, je me suis beaucoup amusé, intérieurement. C'est pas étonnant. C'est... Vous voyez, on ramène la vie chrétienne pratiquement à une vie humaine, honnête. La pratique, le devoir des temps. C'est pas tout à fait ça que Jésus est venu apporter. Il est venu apporter un souffle d'amour. Le don de son esprit que nous recevons par la grâce. Dieu vient habiter en nous. L'habitation de Dieu en nous. Et à la place d'exercer alors la charité, l'amour à l'égard de Dieu, à la mort du prochain, d'une manière humaine, prudentielle, l'Esprit Saint en nous permet un exercice divin. Un exercice divin de la charité à l'égard du Père, de l'amour à l'égard du Père et de l'amour à l'égard du prochain. C'est comme ça que le mot charité, dans le langage de beaucoup, a pris la signification d'œuvre de charité. On fait la charité à quelqu'un. Faire la charité, c'est effrayant. C'est comme faire l'amour. On voit très bien ce que c'est. C'est pas aimer du tout. On fait quelque chose. Faire la charité, c'est encore gérer soi-même le don gratuit de Dieu pour nous. Le don gratuit. Alors que l'amour de Dieu nous est donné gratuitement, comme un amour qui nous donne une liberté intérieure, nouvelle. Chaque fois qu'on aime, on est plus libre. On est libre par rapport à tout ce qui n'est pas cet amour. on découvre une gratuité plus profonde. L'Esprit Saint en nous, par le don de sagesse, nous permet d'aimer le Père sous le souffle de l'amour, un amour divin, d'aimer le Père comme Jésus l'aime, avec cette force, cette intensité, cette intériorité et cette liberté. Quand on aime vraiment, on est libre. Et on ne fait pas sa part de voir. Je dois aimer quelqu'un une demi-heure. C'est le devoir. Et c'est pas aimer, ça. On dit ça comme on doit faire un exercice de gymnastique pendant une demi-heure. Alors là, c'est très très bien. C'est un devoir d'état pour garder sa souplesse, pour l'acquérir. L'Esprit Saint en nous permet un exercice divin, la charité. Aimer comme Jésus aime, comme le Fils bien-aimé aime le Père. Alors on découvre par là que la vie chrétienne, c'est une vie d'intériorité, avant tout. C'est vraiment une vie d'intériorité. C'est un esprit qui nous permet de regarder Dieu comme un Père, de dire Père en regardant notre Créateur, notre Dieu, de le dire comme Jésus à la croix, et d'aimer nos frères aussi avec cette même liberté, avec ce même don intérieur de nous-mêmes. Alors à ce moment-là, la vie chrétienne est vraiment une vie d'une intériorité beaucoup plus profonde. Et on comprend comment la vie chrétienne est une relation personnelle. Ce n'est plus une loi. Ce n'est pas une super loi. C'est la rencontre avec quelqu'un, avec une personne qui nous aime et qu'on aime, qu'on choisit librement et qu'on veut suivre, qu'on veut connaître. Et cette personne, elle est le mystère du Verbe devenu chair, comme il est dit dans le prologue de Saint Jean. Cette personne, c'est le mystère même du Fils bien-aimé du Père qui vient pour nous sauver, pour être notre sauveur, pour être notre ami, pour être celui qui porte l'iniquité du monde, l'agneau. Jusqu'au bout de son don. Il se donne lui-même, pas seulement de son temps, pas seulement de ses biens. Il se donne lui-même. Et l'évangile de Jean et l'évangile de l'apôtre bien-aimé, celui qui a le plus découvert et le mieux découvert ce qu'est le cœur de Jésus, son amour, sa lumière, sa vérité. Alors c'est cela que je voudrais avec vous regarder, au moins nous approcher de cela. Si nous avons une certaine expérience de l'amour du Christ pour nous, alors nous comprenons que le mystère de la foi qui nous fait adhérer à la parole de Dieu comme appelée lumière, comme une parole qui nous introduit dans la lumière, puisque c'est Dieu qui est lumière. Nous découvrons alors que la parole de Dieu, porteuse d'amour, est porteuse elle aussi de lumière, et elle nous conduit à la vérité. La théologie mystique consiste à découvrir, à travers la parole de Dieu, cette dimension particulière qui est ce lien d'unité personnelle de notre cœur avec le cœur du Christ. De découvrir ce lien intérieur, ce lien profond qui doit exister entre notre cœur et le cœur du Christ. Autrement, nous ramenons l'enseignement du Christ à une prudence humaine, j'allais presque dire à une philosophie. Alors on fait un parallèle entre Socrate et Jésus. Et c'est vrai, on peut faire un parallèle entre Socrate et Jésus, qui est intéressant si on le fait en tant que philosophe. Et on s'aperçoit, si on est croyant, que Jésus est plus qu'un philosophe. Mais il l'est, parce qu'il nous apporte une sagesse, une sagesse de vie. C'est un philosophe. Je peux très bien lire l'évangile de Jean en philosophe, et je vois que c'est admirable. Je connais certains juifs fervents dans leur religion qui, en lisant la Bible, sont passés de l'Ancien Testament au Nouveau sans faire grande attention. C'est vrai, ils le lisaient un peu de l'extérieur, ils ne connaissaient pas suffisamment ce qu'était l'évangile, il n'avait jamais lu. Et puis subitement, il découvre cette personne si étonnante, Jésus. La vie chrétienne, c'est découvrir une personne, c'est découvrir Jésus, avant tout. Et c'est recevoir cette personne comme un don de Dieu pour nous, un don gratuit. Le Christ se donne à nous gratuitement et pleinement. Il veut éclairer notre cœur, notre intelligence, et la baigner de l'amour, dans son amour. Parce que cet ami qui est Jésus veut nous prendre d'une manière telle que tout ce qu'il a reçu du Père, il nous le donne. Il veut nous le donner. Il ne veut rien garder pour lui. Mais il veut tout nous donner. C'est ça qui est de si unique. Et ce juif, découvrant ça, a voulu aller jusqu'au bout de cette découverte. Il a compris que recevoir Jésus, c'est être chrétien. C'est appartenir au Christ en le considérant comme sauveur. Alors, l'évangile de Jean nous montre ça d'une manière très unique. Parce que Jean, aimant Jésus, a reçu sa parole à travers et dans son amour. Et donc, il l'a reçu d'une manière beaucoup plus profonde, beaucoup beaucoup plus intense que n'importe quel autre évangéliste. Et de plus, Jean a reçu Marie comme mère à la croix. Jésus s'adresse à Marie du haut de la croix et lui dit « Femme, voilà ton fils. » En regardant Jean, il regarde Jean et lui dit « Voilà ta mère. » C'est Jésus lui-même qui établit cette alliance familiale, intime. Jésus nous donne celle que le Père lui a donnée pour être sa mère. Et par là, il nous donne tous les secrets de son cœur qu'il a déposés dans le cœur de Marie. Et ils nous sont donnés. Non seulement Jean a écouté la parole de Jésus d'une manière toute spéciale comme disciple bien-aimé, il l'a reçu comme une parole d'amour, d'intimité. Et Jean a aussi reçu l'évangile de Jésus à travers Marie, à travers la manière dont Marie l'a vécu. Et Marie aimant Jésus plus que les apôtres, étant la bonne terre, a pénétré beaucoup plus profondément dans les paroles de Jésus que les autres apôtres et même que Jean. Jean avait besoin de recevoir Marie à la croix pour pénétrer plus avant dans le mystère de Jésus, pour comprendre plus profondément tout l'enseignement du Christ et le comprendre de l'intérieur à la manière de Marie. Oui, il a reçu un double enseignement, Jean. Un enseignement paternel de Jésus, un enseignement maternel de Marie. Et Marie ne pouvait pas donner d'autre enseignement que celui qu'elle avait reçu de Jésus. Et donc Jean a reçu l'enseignement du Christ avec une surabondance grâce à Marie qui lui avait été donnée comme mère. On oublie beaucoup trop ça quand on lit l'évangile de Jean. On oublie qu'il y a cette double gratuité qui fait que pour entrer dans l'évangile de Jean, il faut le recevoir à travers le cœur de Marie. Évidemment, ce n'est pas une méthode exégétique, ça. C'est la méthode intérieure, mystique, pour vivre de la parole du Christ. Et alors, tout prend une nouvelle dimension. Puisque les secrets du cœur de Jésus ont été reçus avec une nouvelle intimité par Marie. Vous voyez, pensez tout simplement à ce fait que quand vous recevez une lettre de quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous la lisez avec beaucoup plus d'attention que les autres. Et vous voyez tout de suite, dans le courrier que vous recevez, les adresses dont vous reconnaissez d'où ça vient. Et si vous attendiez depuis longtemps des nouvelles de tel tel ami, vous voyez une lettre, son écriture, tout de suite. Pas la peine de mettre urgent, ça passe devant tous les autres. Et vous avez raison. À moins que vous ayez un courrier d'affaires au bureau, alors là, l'affectivité est mise en dehors. Mais chez vous, dans l'intimité familiale, et puis à côté de vous, il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui aime encore beaucoup plus l'ami qui vous a écrit. Après avoir lu la lettre, vous lui passez. Et cette personne découvre dans la lettre de l'ami des quantités de nuances que vous n'aviez pas découvertes. Parce que vous aimiez moins. C'est curieux comme l'amour nous rend pénétrant dans notre intelligence par rapport à ce qu'une personne peut nous dire, par rapport à ce qu'un ami peut nous dire. Évidemment, lorsqu'il s'agit de mathématiques, ça joue moins. Ça joue moins. Je crois que si on aime beaucoup le professeur de mathématiques, tant mieux, on l'écoutera plus patiemment que si on l'aime pas du tout. Alors il nous irrite. On a tout de suite remarqué tel ou tel défaut et qui reviennent régulièrement et qui saccadent mal sa phrase et qui font quelque chose qui vont mal. Quand vous aimez quelqu'un, vous écoutez plus facilement. Et ça ne change pas beaucoup les mathématiques. Tandis que, en philosophie, déjà, c'est différent. Non pas parce que la philosophie est du sentiment, non, pas du tout, mais c'est une pénétration plus profonde dans la réalité, dans le cœur de l'homme, dans son intelligence, dans ce qu'il est. Et quand il s'agit d'une lettre d'un ami qui nous livre ses secrets, alors l'amour change tout. On découvre des nuances, des parallèles. On a une pénétration beaucoup plus profonde. Eh bien, je crois que la théologie mystique, c'est d'essayer de lire l'écriture, l'évangile de Jean, à travers le cœur de Marie, et lire toute l'écriture à travers l'évangile de Jean. Ce qui est normal, puisque toute l'écriture tend vers la révélation dernière qui est l'évangile de Jean. Parce que je crois que l'évangile de Jean est vraiment le dernier moment de la révélation. C'est le vieux Jean qui écrit l'évangile. Et il l'écrit après l'Apocalypse. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que l'Apocalypse, il le reçoit directement de Dieu. Et ça secoue l'Apocalypse, si on veut pénétrer dedans. Parce que ça nous montre l'Église dans ses grandes luttes. L'Apocalypse nous montre le déchaînement du démon. Le serpent antique, le dragon, l'adversaire, les trois termes qu'ils ont pris pour le démon, qui est anti-trinitaire, contre le Verbe qui est lumière, il est mensonge, contre le Père qui est tout puissant, il se fait dragon, et contre l'Esprit Saint qui est celui qui est le consolateur, il se fait l'adversaire l'accusateur, celui qui ne cesse de nous accuser et qui voit tout de travers. Dans toutes nos actions, il y a toujours quelque chose qui peut être séparé, mis en pleine lumière et qui est comme la frange mauvaise, égoïste, orgueilleuse de nous-mêmes. Et c'est pas ça qu'on cherche. C'est par là que le démon nous accuse toujours. Parce que lui met ça en pleine lumière. Alors que quand on aime quelqu'un, on dépasse cela. Et on cherche à découvrir les intentions profondes de son cœur. Jean n'avait qu'un seul désir en écrivant l'évangile. C'est de nous montrer l'intériorité du... C'est de montrer tout ce que Jésus portait comme l'agneau de Dieu qui porte l'iniquité du monde. C'est pour ça que je dis bien que l'évangile de Jean est écrit après l'Apocalypse. Parce que devant l'Église qui continue le mystère de la Passion, qui porte l'iniquité du monde à la suite de Jésus, l'Église est comme l'agneau, la véritable Église, l'Église du silence. C'est l'agneau qui porte l'iniquité du monde. C'est l'agneau qui accepte porter à la suite du Christ toutes les fautes du monde pour être plus proche du cœur du Christ, pour l'aimer davantage. C'est pour ça que Jean, voyant combien l'Église de Jésus, ses frères, devaient souffrir en portant toutes ces luttes. Alors, l'Esprit Saint lui fait comprendre ce mystère de compassion, comme Marie a vécu le mystère de la compassion à la croix. Jean, lui aussi, à l'école de Marie, puisqu'il est son fils bien-aimé, à cette compassion merveilleuse, étonnante à l'égard de l'Église dans son cheminement, de l'Église portant douloureusement toutes les conséquences du péché à la suite du Christ. Et Jean veut montrer aux croyants, aux disciples de Jésus, combien Jésus les a aimés. La théologie mystique, c'est de mettre en pleine lumière dans l'évangile de Jean cette grande révélation de l'amour. C'est l'évangile de l'amour. Et c'est l'évangile qui nous montre de la manière la plus étonnante comment Dieu est amour. Dans sa première épître, Jean a écrit au terme de sa première épître, Dieu est amour. C'est lui qui a découvert cela. Et si l'évangile est écrit après l'Apocalypse, il est écrit aussi après la première épître. Et Jean veut, dans son évangile, nous montrer comment Jésus est la grande manifestation de l'amour du Père. Il est l'incarnation de cet amour. Il veut montrer que Jésus est tout proche par amour pour nous. Et qu'il est tout proche de chacun, même de la Samaritaine. avait eu 5 maris. Je crois que les apôtres l'auraient écarté. Ils auraient eu peur d'elle, ils l'auraient écarté. Femme de mauvaise vie, réputée pour telle. Et Jésus l'interroge. Et il est vis-à-vis d'elle comme un mendiant. Donne-moi à boire. Lui qui est Dieu se fait le mendiant de cette femme de mauvaise vie. Parce qu'il voit dans cette femme de mauvaise vie non pas du tout ses fautes. C'est pas ça qu'il regarde. Il regarde ce cœur blessé. 5 fois successivement blessé par un mari qui l'a quitté. Et c'est pour ça qu'il se fait le mendiant de cette femme. Il l'interroge. Et la femme est stupéfaite de voir un jeune homme juif, beau, grand, être le mendiant. Elle, abîmée par la souffrance. Il ne devait plus y avoir une très grande beauté dans cette Samaritaine. Autrement, elle aurait continué de séduire son mari. Il ne devait plus avoir grand-chose de beauté. Elle était abîmée, fatiguée avant l'âge, faisant la corvée d'eau en plein midi, et donc fatiguée de cette corvée. Et voilà que Jésus la réveille de sa fatigue. Donne-moi à boire. Et elle reconnaît l'accent juif. Un juif ne parle pas à une Samaritaine, surtout un jeune juif, beau, à une vieille Samaritaine, laide. Elle est tout étonnée. Il y a de quoi du reste. Un juif ne parle pas à une Samaritaine. C'est merveilleux de voir jusqu'où va la miséricorde du Christ. Voyez, c'est ça que Jean a saisi. Les synoptiques, les autres évangélistes ne nous racontent pas cela. Jean, sous l'action de l'Esprit Saint, nous dévoile le cœur du Christ dans son amour pour les hommes, dans son amour pour les pauvres, dans son amour pour les rejetés. L'amour du Christ brise toutes les frontières. La frontière qui s'est construite entre les Samaritains et les Juifs n'existe plus pour le cœur aimant du Christ. Quand on a un très grand amour, il n'y a plus de frontières. Parce qu'on regarde dans l'autre ce qu'il y a de capacité d'aimer. Et c'est ça que Jésus vient réveiller dans le cœur de l'homme, sa capacité d'aimer, parce qu'il est amour, et qu'il est celui qui manifeste l'amour du Père. La théologie mystique, c'est cette théologie, cette réflexion, qui dit théologie, dit réflexion, le logos sur Dieu. Donc, une réflexion sur Dieu. Et la théologie mystique, c'est la réflexion sur Dieu amour. C'est la réflexion sur la manifestation de l'amour du Père pour nous en Jésus. C'est la manifestation de cet amour qui nous est communiqué. Et qui nous est communiqué à travers des gestes de miséricorde. Jean, dans son évangile, nous fait entrer progressivement dans cette manifestation de l'amour du cœur du Christ pour nous. C'est de cette manifestation révélation de la vérité. Jésus dit, et c'est l'évangile de Saint Jean qui nous le dit, Jésus dit, je suis la voie, la vérité et la vie. Vous trouvez cette affirmation dans ce dialogue étonnant qui termine l'enseignement du Christ aux apôtres. C'est après l'institution de l'Eucharistie. Connaissez ce passage qui est très beau. Lorsque Jésus annonce aux apôtres qu'il va bientôt partir, alors les apôtres s'inquiètent. Seul Dieu philosophique, je peux le dire. Si Dieu existe, il est la vérité. Mais seule la foi chrétienne me permet de recevoir directement du Christ ces paroles. Je suis la voie, la vérité et la vie. Parce que seul le Verbe de Dieu, le Fils unique du Père, prenant, assumant la nature humaine, fait qu'à travers cette nature humaine, il se manifeste tel qu'il est. Il est le Fils bien-aimé du Père qui proclame que le Père est vérité. Et quand Jésus dit « Je suis la voie », il montre qu'il est venu nous indiquer le chemin. La vérité, on peut s'arrêter à lui. Il n'y a pas de danger. Il n'y a qu'auprès de lui qu'on peut s'arrêter. Il est la vérité. Il est donc celui qui peut seul satisfaire le désir intense de notre intelligence d'être dans la vérité et de saisir la vérité. Jésus seul peut faire ça parce qu'il est le Verbe bien-aimé du Père. Parce qu'il est le Fils bien-aimé. Alors il peut être celui qui comble tous nos désirs de vérité. Il est la vérité. Et en lui, il n'y a pas de mensonge. En lui, il n'y a pas d'erreur. La vérité est la vie. Cette vérité, parce que c'est Jésus lui-même et qu'il se donne à nous, il est source de vie. Donc ce qui caractérise la vérité au plan mystique, au plan surnaturel, au plan de notre foi, ce qui caractérise la vérité, c'est qu'elle est une personne vient vers nous et qui nous emporte.